Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Ce samedi 25 mai marque la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. Cet anniversaire nous rappelle la date de la création de l'Union africaine en 1963 à Addis Abeba. Nous en reparlons dans un instant. Dans cette émission également, nous irons à Abidjan pour parler du 5e congrès de la santé prévu dans quelques jours. L'objectif cette année est d'encourager le tourisme médical entre pays africains. Vous aurez les détails dans le Zoom Express. Et puis, notre invité de la semaine s'appelle Khalid Bouksib. Il est consultant en stratégie et relations internationales. Avec lui, nous mettons le focus sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Vous l'entendrez au cours de cette émission. Tels sont les principaux sujets de Coémergence. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, ce samedi 25 mai marque la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. Cet anniversaire nous rappelle la date de la création de l'Union africaine en 1963, ou plutôt à l'époque, c'était l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUIA. Cette année, l'accent est mis sur l'éducation. Il n'empêche que sur le plan économique, la priorité reste la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF. Comment évolue l'intégration africaine? Je vous propose d'écouter l'analyse du spécialiste de l'Afrique, Mohamed Chkoundi.
Écoutez, l'Union africaine, depuis sa création, il n'a cessé d'œuvrer pour le renforcement de l'intégration entre les pays de continent, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de faire en sorte que les pays africains parlent à l'unisson, qu'ils négocient à l'unisson pour que l'Afrique ne continue pas à être davantage fragilisée, parce que quand un État africain discute avec une puissance, bien évidemment, il se trouve dans une situation de vulnérabilité. Donc, il y a eu une accumulation, on va dire, au niveau de tout ce qui est renforcement de l'intégration africaine. Dans un premier temps, lors de sa création, il y avait une divergence entre c'est-à-dire ceux qui plaidaient pour la création des États-Unis d'Afrique, et il y avait aussi ceux qui plaidaient pour aller vers les États-Unis d'Afrique, le marché commun africain, dans un premier temps, mais en prenant une démarche gradualiste. On peut dire que ce sont les deuxièmes qui l'ont remporté, parce que nous avons assisté depuis le traité d'Abuja au renforcement, c'est-à-dire de l'intégration africaine, mais par le biais des communautés économiques régionales, qui sont au nombre de 8, et donc on en arrive à l'étape où il faut commencer à faire en sorte maintenant que cette intégration se réalise dans un cadre continental plutôt que régional. Donc on parle d'abord de la zone de libre-échange continentale. Donc de ce point de vue, l'Afrique avance très bien, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine aussi, il y a cette prise de conscience quant à l'importance, si on veut dire, pas d'un panafricanisme de libération, parce que c'est de révolu, l'importance d'épouser de nouvelles idées que l'on appelle, qui s'agrègent autour du panafricanisme de développement.
Zoom Express.
Direction la Côte d'Ivoire, les professionnels de la santé ambitionnent de promouvoir les potentialités de l'Afrique en matière donc médicale. Plus de 300 000 professionnels du secteur de la santé sont ainsi attendus lors du 5e congrès de la santé prévu à Abidjan dans les jours qui viennent. À Abidjan, nous retrouvons Hippolyte Dier pour nous donner plus de détails sur cet événement qui met le focus cette année sur le tourisme médical.
Le tourisme médical ou encore tourisme hospitalier désigne des patients qui vont intentionnellement à l'étranger pour obtenir des services médicaux afin de bénéficier de soins de meilleure qualité ou à des tarifs plus attractifs que ceux appliqués dans leur pays. 3 000 visiteurs du secteur de la santé issus de 10 pays africains et d'Europe sont donc attendus à la 5e édition du Congrès africain du tourisme médical prévu en juin prochain à Abidjan, initié par une organisation tunisienne et la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Cette rencontre vise à promouvoir les potentialités de l'Afrique en matière de santé. Docteur Joseph Boghifo.
Mais c'est aussi pour nous un moyen d'ouvrir un dialogue entre nos amis de l'Afrique du Nord et nous qui sommes de l'Afrique de l'Ouest, mais au-delà de cela, même toute l'Afrique, car il existe la Fédération africaine du secteur privé de la santé, où notre fédération siège au conseil d'administration et qui fait que, à travers cette fédération africaine, nous sommes tous amenés à parler au niveau de l'Afrique dans ce qui touche au niveau de la santé. Il est important de comprendre, je le disais tout à l'heure, que le secteur privé de la santé joue un rôle important dans notre système de santé dans les différents pays.
Cette édition du Congrès africain du tourisme médical va se tenir autour du thème « Coopération et investissement dans le secteur de la santé en Afrique » et sera constituée principalement des expositions stand de 8 panels de haut niveau et de 55 communications. Pour le représentant du ministre ivoirien du tourisme, l'initiative est à saluer. Docteur Jean-Marie Kouakouata.
Parce que nous avons un gouvernement qui a mis sur pied, qui a bien compris que par le médical, par la santé, nous pouvons aussi engranger beaucoup de devises. Et c'est pourquoi nous avons, à travers les ministères, le ministère de la Santé, en charge de la Santé, et le ministère du Tourisme et des Loisirs, faire en sorte que nous soyons véritablement partie prenante dans l'organisation de ce forum, en fait que, quelque part, nous puissions faire de la Côte d'Ivoire une véritable plaque tournante en matière de tourisme médical.
C'est la première fois que cet important rendez-vous se tient dans un autre pays. Les 4 éditions précédentes se sont déroulées en Tunisie. À Abidjan, Hippolyte Dié pour Midi 1.
Merci à vous, Hippolyte Dié, correspondant de Midi 1 à Abidjan.
Coémergence, l'invité.
Notre invité de la semaine s'appelle Khalid Bouksib. Il est consultant en stratégie et relations internationales. Avec lui, nous mettons le focus sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui a été, je le rappelle, ces jours-ci secouée par une tentative donc, de coup d'État selon les autorités de Kinshasa. Nous mettons le focus, nous, sur le plan économique avec Khalid Bouksib. Bonjour à vous, Khalid Bouksib, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Alors, vous venez de conduire une mission donc, économique en République démocratique du Congo. L'objectif était d'encourager les investissements entre entreprises marocaines et congolaises. Alors, parlez-nous tout d'abord de cette mission de B2B que vous venez de mener en République démocratique du Congo.
Eh bien, tout simplement, en fait, moi, je suis associé au cabinet Nexia à Casablanca. Et puis, lorsque l'on parle de l'international avec nos clients et principalement de cette fameuse coopération Sud-Sud qu'il faudrait concrétiser, eh bien, on s'est aperçu que la plupart de nos clients avaient dans leur liste la République démocratique du Congo, parce que c'est un grand pays. Vous savez que ce sont des chiffres qui donnent le tournis parfois. Un fleuve qui fait 4700 km de long, 90 millions d'habitants. Rien que Kinshasa, c'est environ 15 millions d'habitants. Mais toutes ces entreprises qui avaient prévu de prospecter, de se développer ou d'exporter en République démocratique du Congo ne savaient pas comment s'y prendre. Et rares sont les personnes qui pouvaient les emmener et leur présenter le pays. Et la particularité que j'ai, c'est que c'est un pays que je connais bien. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec la République démocratique du Congo et j'ai même participé aux élections. Et là, l'opportunité était donnée justement à ces entreprises de découvrir et de confirmer en fait que l'un des pays où la croissance est encore possible pour nos entreprises marocaines, eh bien, c'est bien le Congo RDC.
Donc, alors, quelles sont les opportunités justement que les entreprises marocaines ont eu à déceler dans ce pays?
Alors, d'abord, les principales opportunités, ce sont bien sûr les infrastructures, parce que le pays est tellement vaste, ça fait, si je devais donner des ordres de comparaison, ça fait 4 fois la France ou 80 fois la Belgique. Donc, il y a toutes ces régions qui sont à désenclaver et donc tous les projets d'infrastructures à construire, principalement des ponts et des routes. Et là, en la matière, je dois dire que nos entreprises marocaines excellent, puisqu'elles opèrent déjà dans différents pays en Afrique. Ensuite, il y a le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Il y a à peu près 80 millions de terres arables. Donc, les terres arables non cultivées couvrent à peu près la totalité de la surface du Maroc. Donc, là aussi, des acteurs marocains de grandes compagnies se sont empressés de présenter quelques projets de coopération, ou bien pour exporter au Kougon, ou bien pour cultiver sur place. Et puis après, il y a tous les autres secteurs tels que les hydrocarbures, les mines, bien évidemment, mmh. et puis les services et les nouvelles technologies.
Mmh. Alors, il est vrai que quand on parle de certaines parties du continent, on met toujours en avant la difficulté du climat des affaires dans certaines économies, qu'il y a un contexte local qu'il faut maîtriser. Dans le cas de la République démocratique du Congo, qu'en est-il ?
Alors, vous dire que les choses sont simples, ce serait vous mentir. Mais ça n'est pas plus compliqué que dans d'autres pays. Vous savez, moi, pendant des années, j'emmenais des entreprises françaises pour qu'elles s'installent au Maroc et elles me disaient que le contexte n'était pas simple pour elles. Je pense que tout est affaire d'approche culturelle. Et en la matière, le Congo ne fait pas exception. Et toute une batterie de services et d'institutions sont mis à la disposition des investisseurs et de celles et ceux qui voudraient entreprendre. Par exemple, nous, cette mission de prospection économique, nous l'avons menée en collaboration avec l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements, qui, il y a un an, avait déjà emmené une cinquantaine d'entreprises congolaises au Maroc. Et puis, nous l'avons fait aussi avec la Chambre de commerce maroco-congolaise. Donc, les institutions sont en place. Il y a des cadres très précis d'exonération en fonction des investissements que vous faites. Je veux dire, ce ne sont pas que des dispositions qui sont sur le papier, elles sont concrètes. Et d'ailleurs, pendant cette mission, nous sommes allés rencontrer des entreprises qui se sont installées, par exemple, en zone économique spéciale et qui ont témoigné d'abord de la bonne gestion du guichet unique et puis des bonnes dispositions fiscales et des incitations qui ont été réellement mises en place pour attirer les entreprises.
Mmh. Alors, ces secteurs d'investissement, vous avez tout à l'heure parlé des BTP, hein, des travaux publics, notamment ce besoin en désenclavement donc, dans ce vaste pays qu'est la République démocratique du Congo. Alors, si vous connaissez bien ce marché-là, quelles sont les opportunités qui pourront davantage ou plus facilement sourire aux entreprises marocaines dans ce pays, je le rappelle quand même, la République démocratique du Congo avec ses 100 millions d'habitants?
Alors, si, pour parler de la construction, je vais donner quelques chiffres. Il y a 150 000 kilomètres de routes, de réseaux ferroviaires ou de voies d'eau à réhabiliter. Et il y a en ce moment trois aéroports qui sont ou à construire ou à rénover. Et en dehors de ça, nos entreprises marocaines aussi, bon, elles l'ont fait par exemple à Abidjan, dans la baie de Cocody, elles l'ont fait au Sénégal. Il y a toute la partie logement, à la fois logements sociaux et logements de standing, où nous excellons en la matière. Vraiment, c'est un marché qui nous attend. Et la particularité du Congo, c'est qu'il y a un manque d'acteurs sur le territoire, ce qui fait que vous avez quelque part des monopoles par défaut et vous retrouvez les grands groupes qui s'accaparent à peu près les mêmes parts de marché parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs sur le terrain. Mais moi, ce que j'ai voulu expliquer aux entreprises marocaines en les faisant venir au Congo, c'est que non seulement les opportunités sont là, mais le risque est partagé par les financeurs aussi. Donc, ils n'auront pas de risque de ne pas être payés, par exemple, parce que, il faut le dire, c'était la première crainte des entreprises. Lorsque vous investissez quelque part, vous voulez avoir un retour sur investissement à plus ou moins long terme, mais vous voulez surtout, dans tous les cas, être payé. Et là, les projets sont vraiment multiples. Et surtout, en matière d'énergie, il y a quand même des sociétés marocaines qui commencent à opérer dans le pays, mais même dans la construction de centrales électriques, par exemple, notre savoir-faire est fortement sollicité et que les institutions congolaises font aussi l'effort de venir au Maroc pour prospecter et présenter ces opportunités aux entreprises marocaines, justement.
Mmh, mmh. Alors, une question aussi qui se pose et que vous avez évoquée, c'est le financement, la rentabilité ou en tout cas ces facilités d'accès au financement sur le marché congolais. Quels sont les instruments de financement qui existent? Quelle collaboration peut exister entre les acteurs financiers marocains et congolais?
D'abord, je rappelle aux entreprises marocaines qu'il y a une banque marocaine qui est sur place, qui est Bank of Africa. Et parfois, ça peut rassurer aussi d'avoir notre propre institution bancaire sur le territoire. Ensuite, ce qui est encouragé, ce sont les concessions ou les partenariats publics-privés qui sont parfaitement encadrés et les dispositions sont tout à fait claires. Et puis, dans tout ce qui va être projet stratégique ou avec un impact social et territorial, vous avez toutes les institutions internationales qui ou financent ou cofinancent les projets. Je pense par exemple à la Banque africaine de développement, à la BAD, vous avez l'Agence française de développement, vous avez le Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, la confiance envers la République démocratique du Congo est en train de changer puisqu'elle fait aujourd'hui gage de bonne gestion, que sa notation est en train de changer. Et donc, il y a de plus en plus de budgets qui sont alloués au projet au Congo RDC.
Merci à vous, Khalid Bouksib. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie et en relations internationales. Vous nous parliez de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Destination Écho.
Et nous restons en République démocratique du Congo pour réécouter Eric Nindou, un proche collaborateur du président congolais Félix Tshisekedi. Nous l'avons reçu il y a de cela quelque temps dans Coémergence. Il nous parle des priorités économiques du gouvernement congolais.
Nous sommes justement dans un pays où l'État est le premier employeur du pays, ce qui est une aberration. Parce que dans un pays comme le Congo, où il y a un potentiel immense, notamment dans les infrastructures, dans les services, dans la production comme telle, il faudrait que le secteur privé prenne sa part. Malheureusement, c'était ça. La compétitivité n'était pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'il y avait trop de taxes, il y avait trop de corruption aussi, il faut le dire. Et le président a mis en chantier tout un tas de réformes qui ont permis notamment de lutter contre la corruption. Exemple pour ça, preuve de ça, c'est que le budget est passé de 2019 à 2023 de 4 milliards de dollars à 16 milliards de dollars. Il a été quadruplé. Pourquoi il a été quadruplé? Pas par magie, c'est tout simplement parce que la lutte contre la corruption a fait que tout l'argent qui était perçu, par exemple, au niveau des douanes, au niveau des régies fiscales, maintenant va vers les caisses de l'État. Avec un budget de 16 milliards, ce n'est pas encore suffisant pour un grand pays de 100 millions d'habitants, mais on est dans une courbe ascendante, ce qui permettra non seulement à l'État de pouvoir pourvoir à ses besoins, mais aussi d'investir. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est pour la première fois de l'histoire du Congo que nous avons atteint ce qu'on appelle la cinquième revue du cadre général de la dette avec le FMI. Ça a été fait tout récemment, au mois de septembre 2023. On sait bien que le FMI ne va pas aider le Congo à se développer, mais ça donne de la crédibilité au Congo. En même temps, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les bonnes notations des agences internationales, je dois ajouter celle par exemple de l'agence Bloomfield, qui est basée en Côte d'Ivoire, une agence qui a la spécialité de noter les pays africains en monnaie locale, et elle nous a mis une cote B++, c'est-à-dire vraiment favorable. Donc de ce point de vue-là, le Congo est sur la bonne voie, mais il faut effectivement pousser le secteur privé, et notamment là-dessus, je termine, le président a mis en place ce qu'on appelle le FOGEC, c'est un fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs, et il a mis aussi en place ce qu'on appelle le PADMPME, le programme d'aide au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Parce que c'est ça le tissu économique. On doit créer de milliers et des milliers de petites entreprises qui vont pouvoir aider les Congolais à travailler.
Alors, ce sera peut-être ma dernière question. C'est par rapport à l'attractivité donc, des investissements. On sait que le Maroc est un pays qui est très présent sur le continent. C'est le deuxième investisseur africain en Afrique.
Absolument.
Si vous aviez un message à lancer aux hommes d'affaires et aux investisseurs du continent, notamment ceux du Maroc, quel serait ce message-là, Eric Nindou?
Ce message-là, c'est qu'il faut venir au Congo. Il faut y venir maintenant. Parce que le pays est justement dans une courbe ascendance, dans une bonne tendance de réforme. Il y a une véritable volonté de réforme du pays pour assainir les finances publiques et pouvoir aller de l'avant. 6,4 millions d'emplois à créer en 5 ans. La deuxième chose, augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Et la troisième chose, pouvoir assurer la sécurité et la stabilité. On sait très bien que la base d'une économie, il faut la stabilité. Le Maroc a cette chance d'être un pays stable, qui peut faire des projets sur le long terme. Comme on dit souvent, on ne peut pas résoudre des problèmes structurels avec des mesures conjoncturelles. On est souvent soumis au court-termisme en Afrique parce que tout est urgent. Au Congo, on a une perspective avec un président qui sait où il veut amener le Congo. Il sait que le Congo se développera dans 20 ans peut-être, mais il faut le mettre sur la bonne voie. Et notamment, une dernière chose que je crois qui est très importante, c'est d'abord que le Congo, comme les autres pays africains, doit miser sur ce qu'on appelle la croissance verte, la green economy. Parce qu'on a la chance d'être les derniers dans le train de l'industrialisation. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un leapfrog, un saut de grenouille, en tout cas, pour passer à une nouvelle technologie. Et le président a investi là-dedans, notamment en ce qui concerne les économies vertes, l'hydroélectrique, Inga, qui est connu du monde entier, le barrage d'Inga, le solaire. Il y a des stations solaires qui sont en train d'être construites. Et on pourrait là-dessus imiter l'exemple du Maroc, hein, qui est un pays qui a vraiment investi dans la green economy. Et enfin, l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle le dividende démographique. 100 millions d'habitants, une perspective de 200 millions d'habitants en 2050, avec près de 60% de jeunes de moins de 20 ans, il faut trouver des emplois pour ces jeunes. Et pour que notre dividende soit réellement, la démographie soit un dividende pour nous, il faut investir dans le capital humain. C'est pour ça que le président est en train de construire 5 grandes universités au Congo, ce qui n'avait jamais été fait, pour que ces jeunes soient formés et qu'on ait justement ce capital humain qui va permettre le développement du pays.
Merci à vous, Eric Nindou. Je rappelle que vous êtes un proche collaborateur du président congolais Félix Tshisekedi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.